Gauche, droite, gauche, gauche.
Tu fais quoi là ?
Écoute, je swipe sur l'appli Betsson. Avec leur combi express, je passe en revue les matchs chauds et... je valide mon pari. Et le bonus, si ça gagne pas, je récupère 10% en crédit. C'est simple, c'est juste, c'est Betsson. Télécharge l'appli Betsson et reçois jusqu'à 100€ de bonus de bienvenue.
Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Et oui, l'after continue jusqu'à 1h du matin ici en direct du Qatar. Comme tous les soirs, nous sommes là avec vous, bien sûr, dans l'after, l'émission qui a dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, avec une journée de rêve ici au Qatar. Si vous aimez le foot, si vous aimez le suspense, si vous aimez les renversements de situation, eh bien ce soir, on va se régaler à analyser tout ce qui s'est passé avec en plus une Dream Team qui est là avec moi. Daniel Riolo est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Lionel Charbonnier en studio à Paris. Salut Lionel.
Salut les copains, bonsoir à tous.
Jérôme Rotel avec nous également. Salut Jérôme.
Salut à tous.
Et Oussane Moussaïef qui était avec moi au stade tout à l'heure pour France-Tunisie.
Donc bonsoir tout le monde.
C'était son match.
C'était en vie.
C'était le Oussamico.
Ah, il a fait il a la main sur le cœur pour l'hymne tunisien.
Et pour l'hymne français aussi, c'est important de le rappeler.
Mais là, c'est trompé de main.
Oui, c'était main droite.
Alors. L'adversaire des Bleus, c'est la Pologne. On va en parler longuement. Vous saurez tout sur la Pologne d'ici 1h du matin. On va également parler de l'Argentine tout à l'heure avec Georges Quirino. Et puis l'équipe de France, bien sûr. Les choix de Didier Deschamps, ses réactions d'après-match totalement lunaires. Ce qui s'est passé également avec la VAR et l'erreur de l'arbitre. Donc, suite au but d'Antoine Griezmann. Tout ça a eu des conséquences. Une sorte d'effet papillon du VAR qui est allé jusque dans les compagnies de Paris, jusqu'à TF1. Enfin, on vous racontera tout ça, on en débattra ensemble. On parlera aussi des choix de Didier Deschamps, parce qu'il y avait des trucs assez hallucinants ce soir. En gros, il s'est mis un petit challenge, il s'est dit « Et si je faisais un truc où les mecs ne jouent pas à leur poste ?» On va voir ce que ça donne. Bon, moralité, on a perdu. On va en reparler ensemble dans quelques minutes, bien sûr. Et puis pour ceux qui nous rejoignent, qui ont été à leur télé un peu trop vite tout à l'heure, je précise que le match est vraiment fini, hein, entre la France et la Tunisie.
Ouais.
Voilà.
Mais quel est le résultat final, au fait, alors, finalement ?
Commence pas à vouloir enlever la victoire de la Tunisie. La Tunisie a gagné 1-0.
Ah, d'accord.
Ouais. Avant qu'on attaque sur le futur adversaire des Bleus, je le rappelle, tous les soirs dans l'after, on vous offre des maillot grâce à Foot Corner, et ce soir c'est un maillot d'Argentine qui est à gagner. Pour gagner ce maillot, vous envoyez Foot par SMS au 732 16. Vous avez une bonne heure pour jouer.
Gagnez votre maillot sur RMC avec Foot Corner. Jusqu'à 70% de réduction sur les plus grandes marques de sport, c'est la Black Week jusqu'au 28 novembre sur footcorner.com.
Daniel, Lionel, Jérôme, Oussem, France-Pologne, dimanche à 16h. Ça a été tordu jusqu'au bout, parce que les Mexicains auraient pu passer devant, mais finalement, ce sera la Pologne.
Et ce sera donc du 100%.
C'est-à-dire, toi, tu vois,
c'est du 100%.
Tu n'envisages pas une seconde que la France ne passe pas contre la Pologne.
Bah, tu sais, souvent, dans ces cas-là, j'aime bien dire, bon, alors, on ne sait jamais si le scénario catastrophe. Le scénario catastrophe, tu prends un carton rouge dans les 10 premières minutes, tu joues tout le match. Mais même dans ce cas, je pense que même à 10 contre 11, j'imagine pas une défaite contre cette équipe qui ne fait rien de rien, qui ne produit rien.
Tu te demandes comment ils sont passés.
Qui n'est pas en plus une défense de malade à part un très bon gardien. Donc forcément, à un moment ou à un autre, Mbappé et Anko vont réussir à faire mal. Offensivement, Lewandowski ne voit pas un ballon. C'est du 100%. Pour moi, c'est un beurre total. Quoi. Un beurre qui est même resté au soleil, tu vois.
Lionel, t'es d'accord ?
Ah oui, complet. Là, c'est vraiment ce qu'on a vu aujourd'hui. Quand tu vois les trois équipes sur le terrain, tu te dis bon allez, c'est soit l'Argentine, soit la Pologne, soit après tu peux. Mais tu dis bah c'est la faut tomber absolument contre la Pologne. Apathie, qui n'ont fait que une ligne de 4, une ligne de 5, qui n'ont fait que défendre. Ça allait à 2 à l'heure. Tu vois qu'ils peuvent être pris de vitesse à chaque instant. Devant, Lewandowski, bah il peut rien faire parce que en plus il n'arrive même pas à jouer les contre-attaques qui sont en tout cas sur ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Alors peut-être que contre la France, ils vont se transformer.
Ils vont pas s'inventer des joueurs, hein, Lionel.
Ben non, mais peut-être, je sais pas. Ils vont s'inventer une condition physique, un mental. Ah je ouais. sais pas. Je sais ah,
c'est
pas.
C'est sûr que le duel est Glick Mbappé.
Non. C'était enfin. Par rapport à nos forces et leurs faiblesses, c'était l'équipe sur laquelle il fallait tomber. Maintenant, il va falloir exploiter nos forces.
Jérôme, t'es d'accord aussi ?
Oui, bah, que l'adversaire est totalement à notre portée, ça c'est sûr. Après, moins catégorique que Daniel sur le fait qu'il faut respecter quand même cette équipe et qu'il y a des scénarios qui peuvent nous mettre en difficulté parce que c'est un match couperet. Un match à élimination directe, il faut bien entamer les rencontres. Comme, y a
c'est
des
un autre sport.
Ben oui, il y a des moments clés dans ces... dans ces matchs-là, et il faudra pas se rater, parce que même si la Pologne a montré, et là je suis totalement d'accord avec Lionel et avec Daniel, trop peu de choses pour déjà se qualifier. C'est un miracle qu'ils soient qualifiés.
C'est fou.
Ça, c'est vrai.
Alors, ils ont battu les Saoudiens 2-0, ils avaient fait 0-0 contre le Mexique.
Ouais,
alors.
mais quand tu te rappelles des matchs, les Saoudiens, ils ont beaucoup de situations intéressantes. Alors après, ils perdent, ok. Contre le Mexique, c'est la même chose. Je suis même pas sûr qu'ils aient trois occasions dans le match, les Polonais. Par contre, les Mexicains en avaient une dizaine, en étant mauvais, hein, déjà. Donc, ça veut dire qu'il y aura des situations. Cette défense, en effet, je suis d'accord avec vous. En plus de ça, elle est, on dit, c'est un gros bloc défensif. Ils défendent, mais en fait, ils concèdent tellement d'occasions. Tu regardes sur les derniers mois, quand ils ont joué des grosses équipes, hein, des équipes qui sont peut-être faites comme la Belgique, par exemple, qui est loin d'être une grande équipe par rapport à ce qu'on voit à la Coupe du Monde, ils en avaient pris 6, hein, il y a à peu près 3 mois. Donc,
moi, je dis, ils peuvent prendre une valise. Enfin, ouais. on est en train de parler de Glick, hein, derrière.
Ouais. Disons qu'on ne peut pas parler Glick de l'adversaire. Glick
est encore là. Ils ont un gardien qui est fort, quand même.
Ouais,
ils ont un gardien qui est en pleine bourre.
Ils ont Chesney, mais pour moi, c'est même pas. Si la France, honnêtement, ne bat pas la Pologne, c'est parce que la France aura été son propre adversaire. Ça ne tient qu'aux Français.
C'est ça.
Bon, on est à peu près tous d'accord.
Donc on est déjà dans le quart de finale.
Non, franchement, vous allez jouer ce match. Non. Faut jouer ce match et jouer avec nos qualités.
On est déjà dans France-Angleterre du 9 décembre.
C'est vrai, par contre, et je suis d'accord avec Jérôme, là, tu entames un autre tournoi. Là, tu as le match couperé. Il faut que, on va voir comment psychologiquement, c'est là qu'on peut retrouver on peut trouver la France à être son propre adversaire. C'est que psychologiquement, est-ce que cette équipe est capable de le gérer? Je pense que oui, mais t'as des équipes qui se liquéfient face à l'enjeu.
Si on peut donner 2-3 éléments supplémentaires de match où tu joues une équipe où t'es archi favori, c'est du 100%. Donc forcément, tout le monde va repenser à France-Paraguay en 8e, donc 90. Sauf que le Paraguay, c'est au moins une équipe qui savait défendre. Ils avaient un bon gardien, comme la Pologne a un bon gardien, mais ils sont organisés pour subir.
Ils faisaient des contre-attaques aussi.
Ils sont organisés pour défendre,
et pour emmerder en fait.
Voilà. Ils savent faire. Les Polonais, ils sont même pas organisés pour ça, quoi. C'est ça qui est.
Non. Et puis surtout que après, tu pourrais dire ouais, devant ils ont Lewandowski, et Lewandowski, c'est toujours
un danger,
problématique de l'avoir contre soi. Ça, c'est sûr. Mais Lewandowski peut plus faire tout seul sur le terrain. Il faut lui donner des ballons. Et franchement, quand tu vois le milieu de terrain, rien que Krikoviak est titulaire dans cette équipe de la Pologne, tu te dis que bon, on peut peut-être voyager tranquille même de ce côté-là, quoi.
Alors France-Pologne, c'est une affiche assez rare dans les grandes compètes. Les dernières fois en match officiel, c'était en qualif en 95.
40 ans.
Ah oui. Et la dernière fois dans une compétition.
Matt, tu sais que c'est un match très important. Hein, les historiens de l'équipe de France disent que c'est un match charnière, puisque c'est le 1 partout au Parc des Princes, le coup franc de Djorkaeff, qui, selon les dires de ceux qui étaient dans le groupe, 98. Démarre la génération qui va permettre à l'équipe d'aller à l'Euro 96 et donc de se construire pour 98. Ce coup franc de Djorkaeff qui sauve en plus la tête d'Enes Jacquet.
Il y a eu un France-Roumanie aussi qui était important, rappelez-vous, une victoire en Roumanie.
C'était là en 95.
Dès 95, on doutait déjà d'Enes Jacquet.
À Jacquet, ce match contre la Pologne, il peut sauter, ouais. Et Djorkaeff met un coup franc et match au Parc des Princes.
Après 23h, on aura un journaliste spécialisé dans le foot polonais qui nous dira tout, enfin qui nous donnera d'autres infos. Mais juste avant, la dernière fois qu'on a joué la Pologne dans une compète officielle, 82, match pour la 3ème place.
Perdu 3-2.
Ah oui.
C'est ça, c'est 3-2
Alors, exactement.
Comme quoi,
3-2, je crois.
On les joue quand même pas souvent, quoi, les Polonais.
Perdu 3-2. Je vous donne
le
juste.
Le 10 juillet 82.
Je vous donne les buteurs. René Girard, Alain Courriol pour la France.
Oh.
Voilà. André Jarmak, ancien pote de l'USRG, avait marqué pour la Pologne. Allez, rapidos, trouvez-moi le 11 de départ, là. Qu'on rigole.
Bah, Castaneda était dans les buts, ça, oui. Ah,
ça avait tourné le match de la 3ème place.
Voilà, c'est pour ça que c'est dur.
Bah oui. Franchement.
Jean Vion.
Jean Vion, c'est bon.
82. Bah, Diston, je vais pas.
Baptiston, bah non, le pauvre,
Exact.
Ouais. Oh, non, tu vas le respecter deux secondes.
Il y en a un qui fait partie de notre Dream Team RMC.
Manu, il joue. Trésor, ça joue aussi, Trésor.
Non. Si, Trésor joue, il est capitaine même ce jour-là. Il y en a un qui... je vous ai donné les buteurs, donc c'est facile. Il y en a un qui a marqué en finale de l'Euro.
Bruno Bellone, bravo.
Allez, je vous donne les autres. Jean-François Larios était titulaire.
Ah ouais.
Philippe Mahut.
Le pote à Platoche.
Gérard Soler.
Gérard Soler qui avait joué le premier match contre l'Angleterre et qui avait été évincé après le très mauvais résultat d'entrée. Et il avait retrouvé une place de titulaire pour ce match-là.
Voilà. Dans ce système, Soler était pas mal. Ouais.
C'était bien joué.
Ouais, pas mal. Okay. Très bien.
Ouais, c'est pas mal.
Allez, voilà. Alors, la Pologne, on y revient tout à l'heure. Tout comme l'Argentine d'ailleurs. On aura Georges Quirino après 23h qui doit être soulagé, lui qui tremblait, rappelez-vous.
Philippe Mahut.
Un petit caca culotte, hein, Georges, après le match contre l'Arabie Saoudite. Ils avaient déjà éliminé. Mais là, il est toujours là. Et l'Argentine a été impressionnante ce soir. On en reparlera après 23h. Mais là, tout de suite, c'est l'équipe de France. On se retrouve dans quelques instants. Analyse complète du match de la Tunisie. Il y a énormément de choses à analyser ce soir. Et on vous attend au 32-16 pour le faire ensemble, bien sûr, dans l'After. À tout de suite.
RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Avec Daniel Riolo, avec Lionel Charbonnier, avec Jérôme Bretagne ce soir, avec Oussel Loussaïef, l'équipe de France. Alors on va faire ça étape par étape. Parlons d'abord du match et des choix de Deschamps. Un Deschamps qui en conférence de presse après match a été totalement détaché il considérait ça comme un match amical. Hein. Alors vous allez me dire mathématiquement.
Quel manque de respect.
Effectivement, c'est on peut considérer que c'est peut-être le cas, mais enfin tout de même, c'est jamais anodin. Un match de Coupe du Monde, c'est l'histoire du foot hein, qui se fait ici au Qatar. On se souvient tous évidemment de tous les matchs de Coupe du Monde de l'équipe de France. Quand vous avez vu la compo de départ,
bah moi visiblement hyper surprenant, pas, hein, parce que j'ai dit une énorme connerie tout à l'heure, il y a deux minutes.
Hein, ah, t'as dit quoi ?
Sur les matchs de l'équipe de France, sur Solaire. En fait, il n'y a que contre l'Allemagne qu'il est pas titulaire. Je suis persuadé que le gars avait perdu sa place après le match Qatar contre
Arrive. On t'avait bien dit qu'il avait rayonné pourtant.
Ça fait 40 ans.
Ouais, mais bon,
c'était le bon système pour lui.
Déjà 40 ans, t'as 50 ans
donc,
passé.
La compo qu'on avait hier. La compo qu'on avait hier et que nos confrères avaient à peu près la même.
Mais on l'imaginait pas comme ça.
Non, mais surtout qu'on avait tout faux.
Dizazi, on l'avait pas.
Dizazi, on l'avait pas. Guendouzi, on l'avait pas. Verretou, on l'avait pas. Colomoigny, on l'avait pas. Cela dit, Thuram devait jouer, mais il avait mal ventre.
Qu'est-ce que t'es en train de dire qu'il a fait? Et il a tellement voulu brouiller les pistes qu'il est allé dans l'excès, dans le brouillage de pistes.
Tu veux que je te dise? Il a fait une Domenech. De l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, il est saoulé.
Il a fait fuiter.
Des trucs, là.
De toute façon, il est constamment saoulé par les journalistes.
Bien sûr.
Lui, il voudrait faire la Coupe du Monde sans qu'aucun journaliste soit là.
Quand un sélectionneur, Jérôme, commence à faire ses compos parce qu'il se rend compte qu'il y a certains de ses joueurs qui parlent aux médias. Et donc celui-là, je ne fais plus jouer parce qu'il parle aux médias. Arrête, franchement, ça c'est
tu parles de qui ?
Son cas là, quand
même. Latéral droit.
Non mais rassure-moi là, tu plaisantes quand tu dis ça, Gilbert. Tu me dis pas que c'est à cause des médias qu'il a fait cette composition d'équipe là.
Non, pas
le connaissant donc, assez bien.
Donc tu t'es dit, je vais faire un jeu. Je vais faire jouer les mecs pas à leur poste. Dizazi, Kamavinga,
c'est pas faire un jeu, c'est que malheureusement, il est rattrapé par la patrouille, par ses choix, par ses mauvais choix de groupe. Par ses mauvais choix de groupe, c'est ce que j'allais te dire, Lionel. Donc ça revient à la liste, forcément, où il a fait des erreurs. On a souvent parlé des défenseurs centraux, qu'il y en avait trop. On a souvent parlé des milieux de terrain où dans le milieu était dépourvu, qu'il préfère avoir des milieux défensifs plutôt que des milieux créateurs. Ça, c'est la réalité. Et si tu t'empêches de prendre plus de milieux créateurs plutôt que des milieux défensifs, eh ben, quand t'as besoin d'avoir des mecs qui doivent t'animer un dispositif en 4-4-2 comme c'était le cas aujourd'hui, donc c'est-à-dire un milieu gauche et un milieu droit, eh ben t'en as pas parce que t'es obligé de faire souffler les joueurs de côté que t'as.
Ok, moi j'entends bien tes explications et je veux bien être d'accord, mais là c'est non seulement des choix improbables, mais c'est même les positions dans lesquelles il les a fait évoluer.
Et puis j'ai même
il a fait une équipe de carnaval.
Exactement.
Qu'il fasse comme tout ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais bon, d'abord, il faudra.
Mais s'il veut faire jouer cette équipe,
d'abord, il faudra
entériner
le fait que Pavard soit puni, parce que même sur ce match-là, il le fait pas jouer. Et même à gauche, il aurait pu jouer, et il le fait pas jouer non plus. Donc il met Kamavinga. Depuis deux jours,
Pavard, il dit, je le fais pas jouer, je le trouve pas dans de bonnes dispositions en ce moment.
Voilà. Ce que ça veut dire.
Bon, ça veut dire qu'il est pas bien.
Ça veut dire qu'il est pas bien psychologiquement.
Les gars,
bon, bref, il met Kamavinga depuis deux jours. On essaye de nous faire croire que Kamavinga arrière gauche, c'est possible parce qu'à Fougère, il a joué arrière gauche.
Et parce que c'est
ok, très bien. au milieu de terrain. Guendouzi pas à sa position. Verretou moins un peu. Bon, bon, attention, il a alors, tellement été mauvais qu'on l'a pas vu. Fofana, où est-ce qu'il était?
Non, Fofana, c'est problématique. Bon. Guendouzi, c'est problématique.
Non, mais pourquoi la composition des remplaçants? Je comprends, les remplaçants, mais c'est pourquoi dans ces positions improbables? Pourquoi dans ces positions-là? Fais-les jouer à leur place. À partir du moment où tu as pris des doublures, à partir du moment où tu as pris un groupe de 25, tu dois être capable d'avoir une équipe bis avec des mecs qui jouent à leur place.
Il n'y a pas les doublures, Daniel.
Et si tu veux faire jouer ces joueurs-là, Daniel, pose, mets-toi tranquillement, fais comme si tu étais entraîneur et mets une équipe en place avec ces joueurs-là. Parce que lui, c'est juste une stratégie des temps de jeu.
Alors attends, d'accord. Pavard à droite.
Non, Pavard, il ne le fait pas jouer.
Non mais, si je te, tu me dis si t'es Deschamps, tu fais
je te dis avec
l'équipe.
Ces joueurs-là, t'es borné ou quoi? Tu comprends rien. Moi, avec ces joueurs-là.
Non.
Le 11, il veut faire jouer ces 11 joueurs-là.
Je fais une équipe de remplaçants. Je fais une équipe de remplaçants.
Mais tu comprends pas.
Si, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, toi, tu m'as dit si t'es Deschamps. Si je suis Deschamps, je fais une équipe de remplaçants.
Tu fais jouer Pavard.
Ok. Pavard joue à droite parce qu'il est plus Pavard à droite. Mais pourquoi tu te prends la tête dans les mains?
Parce que je te dis. Tu veux, il veut faire
avec
jouer absolument
départ, avec ses 11 joueurs départ.
D'accord, son 11 de départ.
Le problème, c'est que donc ces 11 joueurs-là, je ne les fais pas jouer.
Mais si lui, dans sa stratégie de temps de jeu, par rapport à ce qu'il va avoir...
Moi, j'ai une stratégie avec des remplaçants. Pavard, il peut le faire jouer.
Il n'a pas, pas besoin gars, de
si c'est au moins un arrière-droit.
Mais si Pavard, il joue pas, c'est qu'il y a un échange avec lui. Peut-être qu'il ne le sent pas bien psychologiquement, très certainement, peut-être physiquement aussi. Ah,
donc il a pas d'autre arrière droit. Si Koundé se blesse, après tu joues avec Dizazi.
Bah comme on n'a pas d'arrière gauche.
C'est les deux, la doublure elle est là. Le premier match Pavard était catastrophique. Il met Koundé qui a été
donc
très bon.
Donc il n'y a plus que Koundé comme arrière droit dans cette équipe.
Là moi j'ai compris comme quoi Pavard, il y avait un souci, soit physique, soit psychologique. Point final. C'est aussi simple que ça. Après le reste. Ça veut pas dire qu'on a perdu Pavard pour la suite de la compétition, parce que connaissant bien Didier Deschamps et qui est une grande force autant
après
tactiquement.
Qu'il vient de déclarer sur TF1, tu crois qu'il va le récupérer?
Moi je
Pavard, il l'a flingué là. Hein.
Non mais je pense que c'était pas en conf, il me semble. C'était en conf, mais c'était pas sur TF1. Mais bon,
il l'a redit après. Il a redit.
Mais c'est pour protéger son joueur. Moi je le connais assez. Les mecs qui sont champions du monde avec lui, ils ont créé des liens à vie. Je pense qu'ils peuvent être assez honnêtes l'un envers l'autre pour dire, écoute, aujourd'hui tu joues pas pour X raison, on va faire jouer.
Alors passons sur ce cas. Les autres.
Les autres, si tu veux les faire jouer, absolument, parce que tu dois gérer.
Vu que t'as les joueurs de l'OM, fais un milieu de terrain OM.
Fais à trois alors.
Fais Guendouzi, Veretout, mais sur les côtés.
Mais le souci, pourquoi un 4-4-2? Alors que normalement, quand tu fais ton truc,
tu joues en 4-3-3 comment avec ces joueurs-là?
Non, mais ton équipe,
mais tu joues pas.
Ton équipe allait en 4-3-3.
Alors pourquoi il l'a fait s'il pouvait pas jouer avec ces joueurs-là?
Ça veut dire que ça.
Pourquoi il l'a fait en fait?
Il ne peut pas jouer avec ces mecs-là.
Ce que Jérôme veut dire, c'est qu'il peut pas jouer sur un 4-3-3 parce qu'officiellement, Guendouzi peut pas jouer attaquant droit.
Alors ça veut dire que ta liste allait mal faite.
Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi l'a-t-il fait?
Pourquoi?
Expliquez-moi, pourquoi il a fait ça?
Pour que Guendouzi soit
pourquoi
un
milieu, pourquoi il nous a donné cette compo qui a aucun sens?
Pour donner du temps de jeu à des joueurs que tu ne reverras plus.
Parce que là, donne-leur du temps de jeu en les faisant jouer à leur place.
Je te dis encore une fois, avec cette équipe-là, Daniel, fais-moi une
Jérôme proposition. Moi, je te mets Veretout Guendouzi façon OM.
Et Chouamini
couloir droit. Chouamini, tu le fais pas jouer.
Chouamini devrait moins jouer.
Pas ce que j'ai dit.
Jérôme a tout résumé en début de prise de parole. En fait, il doit assumer ses mauvais choix de liste. C'est ce qu'a dit Lionel aussi. Non. Il faut assumer ça.
Il est face à ce qu'il a fait.
Il est
prisonnier de son groupe.
Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il a les moyens de faire une autre équipe en faisant jouer des remplaçants.
Mais comment, par exemple?
Guendouzi, Veretout, comment à droite?
Attends.
Il met Colomouani et Thuram en attaque. Attends, et fin 4-4-2. Et après,
à gauche, à qui alors?
Donnez-moi un mec.
Thuram pouvait pas jouer.
Thuram, il pouvait pas jouer.
T'as bien un autre neuf là. Il y en a bien un autre.
Non, mais à gauche, tu mets
Dembélé
ou dans ton truc.
Dembélé, sinon, tu es obligé de démarrer un titulaire.
Voilà. Je sais pas qui il a dans les milieux qui peut jouer côté gauche.
Veretout? Personne.
Veretout, tu fais jouer dans
la gauche. C'est pour ça qu'il t'a foutu.
T'as Veretout, mais tu peux pas le mettre si haut.
C'est toujours le problème.
Lionel, à toi.
Tu mets tes Rabiot.
Non, mais là.
Il veut pas le faire jouer.
Lionel. Là, tout a été dit. Moi, déjà, là où je suis choqué. Alors, je comprends ce que dit Jérôme. Ok, le 4-4-2, il y a pas de souci. Mais pourquoi un 4-4-2 alors que normalement ton équipe, tes mecs, tes remplaçants sont normalement obligés, si ta liste est bien faite, remplacer les mecs, c'est-à-dire que Mbappé a son doublon, Giroud a son doublon, et dans un 4-3-3 de base. Là, ça veut dire que comme tu les mets là, en plus. comme on les voit jouer, il y en a aucun qui joue à sa place. Là, je suis d'accord, on est tous d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est, il n'y a rien qui va. Pour moi, il n'y a rien qui va. C'est, tu peux pas mettre, si tu pars en 4-3-3, tu fais pas jouer ton doublon, tes doublons, en 4-4-2. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas les remplacer au poste. Donc, ta liste, elle est mauvaise.
Lionel, petite précision qu'on a remarqué depuis le terrain, il est tellement si peu en confiance avec ses remplaçants, il a tellement que ses titulaires en tête que les changements qu'il effectue, il le fait juste après le but
ça,
de la Tunisie.
Connerie,
et les mecs, tu sais quoi ? Attends, Lionel, tu sais quoi ? Les mecs, ils avaient même pas accéléré le réchauffement. Il était tellement en panique de perdre la main sur le match, il les a fait rentrer les trois en même temps. Mbappé,
Oussem, ça, t'as raison de le dire.
C'est fou, quand
mais on l'a constaté.
C'est pour te dire qu'on l'a constaté.
Le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse des prières maintenant parce que on sait que dans ce cas-là, si même parce que ça, c'est quelque chose aussi que quand t'es remplaçant, Jérôme, on peut en témoigner. Quand t'es remplaçant et que tu sais, et quand tu sais que et quand tu sais que t'as pas le ton entraîneur avec toi, dans quelles conditions tu vas rentrer, sachant qu'en plus quand tu rentres, t'es jamais dans ton t'es pas mis dans de bonnes dispositions et tout ça.
Raison. Regarde, moi je te prends l'exemple de Dizazi. Là, en fait, tu perds. Dans leur
tête,
tu perds
Dizazi.
Parce que Dizazi
il va plus jouer.
Au stade avec Oussem, regarde, Dizazi, il avait pas fait une touche.
Jérôme, il va plus jouer.
Il pas faire une touche.
Mais ouais, mais pourquoi tu dis il va plus jouer? On fait comment? Mais si t'as un blessé, tu remets Pavard.
Mais oui,
mais Pavard, il est dans quelles conditions?
Mais je te dis, il a pas joué parce que peut-être qu'il était pas prêt là et il le sentait pas, mais tu verras que
alors,
il reprendra son rôle de doublure dimanche.
Jérôme, Kamavinga, il va plus jouer?
Kamavinga? Je pense que
il passe pauvre, il
après
panique.
Tous les autres milieux de terrain Kamavinga. Ce que, et moi, je
non,
trouve que c'est une anomalie.
Non, mais côté gauche, Théo se
c'est
blesse.
C'est une anomalie.
Tu fais
c'est
comment?
Regarde l'exemple du match du Danemark, les gars.
Qui a pris confiance pour un prochain match? Aucun.
Non, mais Lionel, vous avez tous constaté que contre le Danemark, on a pris un but, on a été en difficulté à un partout, que on sauve le match grâce au coup de patte de Griezmann et le but de Mbappé, mais sinon on méritait plus de prendre un deuxième but qu'en marquer
ouais,
un. Et que physiquement, on a senti au milieu de terrain qu'ils étaient à l'agonie sur la dernière demi-heure. Qu'est-ce qu'il a fait comme changement? Eh ben aucun. Pourtant, t'avais Kamavinga qui pouvait remplacer Rabiot, t'avais Fofana qui pouvait remplacer Tchouaméni. Peut-être que Fofana, c'est le seul qui a un peu d'estime pour Didier Deschamps. Et que si demain, il y a un problème entre Rabiot et Tchouaméni, ou un problème d'équilibre où il faut sortir un joueur offensif, c'est lui, là, c'est Fofana qui va rentrer. Mais les autres, Guendouzi, Verretou, Kamavinga, ils vont regarder les autres jouer toute la compétition. Que ça se passe bien ou pas bien. Vous verrez. Même si ça se passera. Et derrière Dizazi, c'est la même chose. Dizazi, il jouera plus. Il jouera plus. Il a eu son temps de jeu. Didier lui a donné une sélection.
À condition qu'il n'y ait aucun blessé, qu'il n'y ait aucune fatigue, aucun. Oui. C'est ça, parce que là, moi je sais pas. Théo, il arrive quelque chose. Qui tu mets à la place de Théo?
Eh ben, il va te mettre Kamavinga.
Ah bah oui. Bah le mec, il est en confiance.
Bah oui, parce qu'il l'a mis une fois.
C'est-à-dire
et il va
que
dire, bah, écoute,
dans notre liste, il met Kamavinga, ok. C'est-à-dire que dans ta liste, en France, on a un noyau tellement fort ou tellement faible, tu prends-le comme tu veux, qu'on n'est pas capable de trouver un latéral gauche de métier pour mettre dans la liste pour faire doublon.
Ça, on en revient à une chose, à la construction de son groupe, ben où il y avait
mais
des
incohérences.
Mais
pour moi, la faute, elle vient pas des joueurs aujourd'hui qui ont été exploités, la défaite et tout ça, ça ne vient pas de ça. Pour moi, la première faute, la base de tout, c'est cette liste qui a été mal faite.
Mais voilà,
c'est tout.
Alors
après,
les gars,
les joueurs, je les juge pas aujourd'hui, hein, franchement.
On va avancer
on peut
parce
les juger
que
quand même.
On va avancer et on va parler dans quelques instants de la fameuse erreur d'arbitrage de fin de rencontre. Mais d'abord, on a Adam au 32-16 qui est là. Salut Adam.
Salut Gilbert, salut toute l'équipe. Ça va?
Alors, salut Adam. Là, on reste encore sur le match et sur les choix de Deschamps. T'es d'accord avec nous là? C'est tout a été fait. Enfin, peut-être pas tout, mais enfin une bonne partie des choix de Deschamps ont été faits en dépit du bon sens.
Ah oui, complètement. Mais pour moi, sans même rentrer dans un débat technico-tactique, là, bon, on est quasiment tous d'accord pour dire qu'il a tout foiré de A à Z aujourd'hui. Et au-delà donc des choix des hommes ou du choix du système, parce que moi aussi j'ai des choses à redire sur le 4-4-2 ou le choix des hommes, mais je pense que sur le choix des hommes, ça n'a même pas besoin d'y revenir, vous l'avez déjà fait. Mais c'est qu'il a installé le doute dans la tête de tout le monde, et dans sa tête à lui en premier peut-être.
C'est ça.
Et c'est quand même incroyable, on commençait à prendre confiance après les deux matchs qu'on avait fait. Pourtant ça avait très mal commencé contre l'Australie, mais après on a réussi à inverser la tendance. Et puis le match contre le Danemark, je suis assez en contradiction avec ce que tu dis Jérôme, parce qu'au final le match est très maîtrisé, même si c'était moins bien à la fin. on sort de ce match très confiant avec une victoire assez sereine. Et donc, on commence à redevenir un épouvantail un peu. La France favori, machin, avec le Brésil, etc. Et après le match d'aujourd'hui, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire, tu sors de ce match au-delà de la défaite parce que c'est anecdotique, tu restes premier et donc ça n'a pas d'impact sur le résultat. Mais je trouve que c'est une catastrophe dans la tête de tout le monde. Tu réinstalles le doute dans la tête de tout le monde. Et pour moi, alors là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, la meilleure des solutions, Daniel, tu avais ce débat avec Kevin en début de semaine, mais c'était en fait de commencer avec beaucoup plus de titulaires au début. Je comprends qu'il faut les faire reposer, évidemment. Mais tu les mets, t'en mets 3 ou 4 au moins au début. Tu mets Rabiot, tu mets Mbappé et tu mets Griezmann. Tu mènes 1-0, 2-0 à la mi-temps, tu les sors. T'as 5 changements, tu peux tous les sortir.
Mais attends, s'il l'a pas fait, c'est que les mecs, il avait pas envie de prendre de risques, il y avait des problèmes. Voilà, ça, c'est la vie d'un groupe. Hein. Je pense
mais
que de toute façon.
Un peu plus, en tout cas, Jérôme. Là, il y avait que Tchouaméni et Varane. Varane, on sait en plus que c'est pour le faire enchaîner, donc c'est même pas la bonne raison. Et il y avait que Tchouaméni. Mais tu peux au moins en mettre un ou deux de plus quand même. Griezmann, il a besoin d'enchaîner. Il n'a pas joué depuis.
J'espère qu'on va finir par en parler de Tchouaméni aussi.
Mais Adam, moi, on est d'accord. C'est la vision de l'extérieur comme ça. Tu as la tienne, moi j'ai la mienne, et Didier Deschamps a la sienne. Mais aujourd'hui, si Griezmann, Mbappé, ils ont pas joué, c'est parce que je pense que d'un commun accord, c'était mieux qu'ils jouent pas. Et ça, on peut pas. Encore une fois, sur un match cacahuète, parce que c'est un match qui servait à rien, tu peux faire jouer tes remplaçants. Il y a pas de souci. Ça leur donne du temps de jeu et même dans la vie d'un groupe. Et je sais de quoi je parle parce que
ouais, mais tu n'es pas n'importe joué n'importe comment. N'importe le problème, c'est que c'est passé n'importe comment. Aujourd'hui.
Mais Adam, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ce qu'on disait juste avant que tu interviennes. Donc, ouais. On les a fait jouer n'importe comment. Bah là, c'est au détriment de la vie du groupe. Et aujourd'hui, on nous dit tous que la vie du groupe, elle est fantastique, que les mecs s'entendent bien. Mais ce que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'ils s'entendent pas si bien que ça, en fait.
Adam, merci beaucoup. Il faut qu'on avance dans quelques
Gilbert,
instants.
Je peux conclure sur quelque chose, Gilbert. Je ne sais pas, Oussem, comment tu as vécu le match. Moi, je suis franco-tunisien à la base, donc ce match-là, pour moi, c'était une souffrance terrible. Je ne sais pas comment c'était.
Oui, c'était dur. Après, moi, je suis très honnête.
Ah bah, on peut faire une minute sur ce qu'on a vécu dans la tribune. Très au milieu des supporters.
Très honnête. Moi, je voulais que la Tunisie gagne, parce que la France était déjà qualifiée. Très honnêtement, franchement, je le dis très honnêtement.
Mais j'ai chanté les deux hymnes. Prendre position, Oussem, prendre position pour une équipe, c'est être contre l'autre. C'est pour ça que moi, j'arrivais pas.
Non.
C'est la première fois de ma vie que j'ai pas célébré un but de l'équipe de France.
Ce qui était arrangeant pour vous, les gars, c'est qu'il y avait pas d'enjeu.
Exactement. Que la Tunisie,
enfin, quoi, la Tunisie pouvait se qualifier.
Exactement. Ce qui m'a fait le plus mal pour la Tunisie, c'est que quand Oussem a chanté l'hymne tunisien, il s'est trompé une fois sur deux.
Non, t'es fou, j'étais à fond. Non, par contre, moi, en tant que franco-tunisien, ce qui m'a touché, c'est quand l'hymne la Marseillaise a été sifflé en début de Marseillaise, parce qu'après, ça s'est vite arrêté.
C'était pas non plus massif. Hein,
c'était pas massif, et souvent, les Tunisiens dans les tribunes ont demandé à ce que ça s'arrête, et ça, j'ai été fier de ça.
Par contre, scène assez surréaliste, on avait à 20 mètres de nous un supporter tunisien. Maillot du PSG, casquette du PSG, qui a insulté Mbappé pendant 20 minutes quand il est rentré.
Mbappé s'est fait siffler à chaque ballon.
Ça, c'est le joueur phare, il se fait siffler.
C'est vrai. Et lui, il l'a très bien vécu, il souriait, Mbappé, on le voyait.
Souvent, j'étais sifflé, moi, c'est pas grave. Hein.
Même par des mecs qui avaient le maillot du PSG ? Non, peut-être pas quand même.
C'est peut-être arrivé à la fin.
Allez, dans quelques instants, on vous décortique ce qui s'est passé dans l'après-match, c'est-à-dire dès le coup de sifflet final, donné, c'est très important cette précision, donc le coup de VAR, parce que c'est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde, la VAR, hein, qu'on vous explique depuis 12 ans dans l'after, comme étant un élément perturbateur pour le football, et bien cette fois...
Preuve que non, elle a rectifié une erreur.
Non, elle a modifié le score d'un match de Coupe du Monde.
Oui, mais un score qui devait être modifié.
Oui, mais non, mais le protocole n'a pas été respecté. Donc en fait, c'est super,
que l'arbitre du centre se soit trompé, d'accord, mais le VAR, excuse-moi, a corrigé une anomalie. Le score devait rester à 1-0. Eh oui.
Bah ça c'est lui. Il est.
Mais non, mais c'est la vérité. Après l'arbitre du centre, il a fait une erreur.
On va faire le factuel et on va débattre ensuite dans quelques instants.
Avec en plus, c'est le sur cette affaire-là.
Avec en plus une nouveauté ce soir, une révélation. Vous allez voir dans quelques instants d'Arthur Perron. On revient dans quelques instants dans l'after. On est là jusqu'à 1h du matin, évidemment. Après 23h, il y aura l'Argentine. Tout sur la Pologne, futur adversaire de l'équipe de France dimanche à 16h et le reste de l'actu du jour, évidemment. À tout de suite.
RMC After Foot Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois. Il est 22h42 en France, minuit 42 ici au Qatar dans notre studio où se trouvent Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Oussem Loussaïef et on a également avec nous Lionel Charbonnier ce soir, bien sûr. Alors, on a parlé des choix de Deschamps, on a parlé des scénarios du match et tout. Maintenant, il faut qu'on revienne sur ce qui s'est passé en fin de rencontre. Donc, je vous rappelle les faits. But de Griezmann dans les toutes dernières secondes. Derrière, l'arbitre accorde ce but dans un premier temps. Engagement les Tunisiens. L'engagement est donné et dans la foulée, deux secondes plus tard, l'arbitre siffle la fin du match.
Au total, même pas deux secondes.
Quatre coups de sifflet.
Les coups de sifflet se sont quasi enchaînés, quoi.
Le premier pour la mise en jeu et les trois pour la fin du match.
Derrière, l'arbitre fait, attendez, je vais voir la VAR, je suis appelé par la VAR. Il va voir la VAR et là, il annule le but.
Il vire les arbitres assistants et le caméraman qui est venu en mobile, qui était venu déjà jusqu'à moitié de terrain.
Il est au joueur resté,
exactement.
VAR, et hop, et là, il refuse ce fameux but, donc a posteriori. Et en fait, ce que l'on sait clairement, c'est que le protocole n'a pas été respecté. Une fois que le coup de sifflet final est donné,
on ne revient pas.
L'arbitre ne doit pas revenir.
C'est la règle.
Ouais. Donc voilà. Donc, ouais, comme je disais tout à l'heure, Jérôme, la VAR a modifié a posteriori un résultat d'un match de Coupe du Monde. C'est une première, Jérôme.
Mais c'est l'arbitre qui a fait une connerie. Donc l'arbitre, il va faire ses valises et il va rentrer chez lui.
Oui, l'arbitre fait ses valises.
Oui, c'est sûr.
Bon, voilà. Un truc comme ça. pas de cadeau, Colina.
Le souci, c'est qu'il a interpellé, c'est ça le bordel.
Lionel, avant qu'on débatte et qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé en coulisses, il y a un dernier épisode qui vient de tomber là. Arthur Perrault est avec nous. Bonsoir, Arthur.
Salut, Gilbert. Bonsoir à tous.
Salut, Arthur.
Alors, dis-nous, quelle est l'évolution du soir concernant cette affaire ?
Avec cette nouvelle que l'on a apprise il y a 10 minutes maintenant, d'une source proche de la Fédération Française de Football, qui indique que la Fédération est en train de rédiger une réclamation à la suite du but d'Antoine Griezmann, refusé à tort de notre point de vue. Je cite cette source. Et cette réclamation doit être envoyée à la FIFA dans les 24 heures suivant la fin du match. Voilà, on reprécise encore à l'instant que la réclamation est en cours de rédaction en ce moment même. Donc voilà, après reste à savoir quelle suite sera donnée à cette réclamation. Évidemment, messieurs, là on est en train de se rencarder là-dessus.
En fait, les suites, donc
le but va être validé de Griezmann.
Donc ça fait un partout, sauf que les Tunisiens.
Attendez, ne préjugez pas de ce que va décider la FIFA. Non, il y a des trucs de dingue.
Ça va pas se passer comme ça.
Sauf que la Tunisie pourra dire non.
Voilà.
Il y avait hors-jeu.
Ouais.
Donc, exactement. C'est nous qui devons gagner 1-0.
Quoi, le bordel?
Alors, on rappelle que les enjeux.
Ah non, mais
les enjeux ne.
Heureusement pour la FIFA, hein.
Ne relèvent que des points FIFA qui rapportent de l'argent aux fédérations.
Parce que là, si une qualif joue là-dessus, là, vous imaginez?
Ah bah oui,
l'imbroglio, le bordel.
C'est un bordel sans nom.
Bah, c'est pas le cas, donc on va pas.
Comme au final, la VAR a réellement vu qu'il y avait hors-jeu, il est probable que ça se termine en 1-0 pour la Tunisie.
Eh oui.
Oui,
en tout cas, on va pas donner match à rejouer.
Arthur, parce que ça existe pour les règlements. T'as donné toutes les infos ?
Et pour compléter ce que tu dis, Daniel, qui sont deux éléments à prendre en compte dans ce dossier, c'est totalement juste. C'est que la décision relève de la commission des règlements de la FIFA, précisément. Voilà, ce sera la commission des règlements de prendre la
décision. En gros, on va traduire. Ils vont faire un chèque à la Fédé française de.
Tu vois comme ça.
Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que sur ce que dit Arthur.
Mais ils vont prendre un chèque.
Pour précisons que financièrement, l'intérêt pour la Fédé est le suivant.
Mais voilà.
C'est que les points à la Coupe du Monde rapportent de l'argent.
Oui, mais je viens de le dire à deux secondes.
Et, ouais. Non, mais
il n'écoute pas, en fait.
Non, mais il faut reformuler toujours. Tu sais, l'information, il faut la répéter pour qu'elle passe.
Toutes les 6 secondes.
Oui. Voilà, pas toutes les 6 secondes.
Les autres, ils sont des cons, mais ça va.
Voilà, et puis il y a aussi les stats d'Antoine Griezmann. Pas très loin du record de Platini et de Giroud.
C'est vrai, ça compte.
Non, mais
ça compte.
Tout compte. Non, mais attends, Gilbert, le but est justement refusé. C'est là que je vous comprends pas, en fait. Il y a une erreur juste de règlement par rapport à l'arbitre qui a sifflé trop tôt.
Attention, parce qu'interprétation.
C'est pas
d'une évidence absolue.
Il y a des arbitres qui te disent qu'il y a but.
Ouais,
c'est pas d'une évidence absolue que le but n'est pas valable.
D'accord, bon, alors. Je pense que sur 10 arbitres, t'en as peut-être 8 ou 9 qui te disent qu'il n'y a pas but. Mais bon, peu importe.
Mais si c'est pas 10 sur 10, on n'est pas dans l'erreur.
Moi, pour moi, les mecs, on est en train de se tromper. Franchement.
Donne ta version, Lionel.
Ma version, quand j'écoute, on est en train de discuter s'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu. La réclamation, elle est là-dessus. Le problème.
Non, la réclamation, elle ne sera pas là-dessus. La réclamation, elle sera sur le but a été validé.
Non,
après le coup de sifflet, c'est là-dessus la réclamation.
Écoute, si Arthur est là.
Oui, je suis là.
Est-ce que tu peux répéter sur la validité du but? Et c'est ça, c'est quoi le truc exactement?
C'est-à-dire.
Sur quoi portera la réclamation, il veut savoir, Lionel. Il veut que ce soit toi qui lui dise.
Dès le début.
Ouais. La réclamation, ce qu'on nous précise, c'est que, voilà, réclamation en cours de rédaction à la suite du but refusé à tort de notre
point. Refusé à tort.
refusé à tort. Exactement.
C'est ça, Lionel. Mais c'est ce qu'on dit. C'est parce que le coup d'envoi a été donné. Donc ça a été validé.
En fait, ils vont faire la réclamation sur la procédure que l'arbitre n'a pas respectée.
Pour moi, la faute technique, elle est plus sur le fait que le match était entériné, le score était entériné. La faute technique, pour moi, elle est là.
C'est ce qu'on vient de dire, Lionel. C'est exactement ce qu'on vient de dire.
Mais pour moi, elle est mal posée. Tu vas voir, ça se trouve, elle sera irrecevable. On verra.
On verra. Merci Arthur, en tout cas, pour ces dernières infos. On retrouve tout ça sur rmcsport.fr, bien sûr. Et là, maintenant, je vais vous raconter l'effet papillon de cette histoire.
Eh oui.
Encore merci la VAR pour ce beau spectacle qu'elle nous a offert. Franchement, la VAR, c'est...
C'est la première fois qu'il y a quelque chose jusqu'à maintenant. Gilbert, c'était quand même... La VAR était bien jusqu'à maintenant. Là, c'est vraiment un imbroglio. Et les quatre de la VAR, c'est eux qui ont mis un bordel. Ouais,
maintenant, effet papillon. Les parieurs. Les sociétés de paris. Daniel, tu peux donner les infos là-dessus. Ça a des conséquences directes financière ultra importante pour eux,
bien
cette
sûr.
Histoire.
Bon, il y a eu effectivement, les sociétés de paris paient immédiatement, donc elles ont payé et la plupart vont récupérer leur argent. Il y en a une société de paris qui va en profiter pour faire un coup commercial et qui a payé le 1-0, qui a payé le 1 partout et qui a payé le but de Griezmann. Ça va leur coûter, j'ai pas la somme précisément, mais on évalue ça à des centaines de milliers d'euros.
Mmh. Ah oui,
elles acceptent le coup pour coup commercial, genre émotion en fin de match, voilà. Exactement. D'autres ne vont pas le faire, elles vont simplement respecter le
protocole.
Et alors, autre effet papillon, ce qui s'est passé sur TF1, où tu as mené ta petite enquête.
Exactement, j'ai passé quelques coups de fil à la suite du match, puisque vous l'avez tous vu, ceux qui étaient branchés sur TF1, vous n'avez pas pu assister à cette scène donc, de but annulé, but refusé.
Parce que TF1 a rendu
l'antenne, exactement.
Enfin, balancer une pub.
Exactement.
Si quelqu'un est parti se coucher et dort encore, demain matin, il se réveille avec un résultat.
Il pense que la France est invaincue dans cette poule. Et donc, le TF1 a rendu.
Si vous apprenez ce soir dans l'after que la France a perdu 1-0, appelez-nous.
Exactement. Donc, on a mené une petite enquête. On a eu des personnes qui étaient dans la production de ce match-là, donc qui sont présentes à Doha et qui travaillent donc pour le diffuseur. Et donc, les infos qu'on a, c'est que eux, ils se sont calés sur les images liées à l'arbitrage. Donc, eux se sont calés sur les images où on voit les quatre coups de sifflet final. Je ne sais pas si on dit finaux d'ailleurs, mais le coup de sifflet final avec le coup de sifflet de mise en jeu. Et donc, ce qu'on a appris, c'est que pour eux, la fin du match, elle a été actée. Les coups de sifflet ont été donnés ce moment-là.
C'est pour le coup vrai.
C'est pour ça qu'à ce moment-là, ils ont dit à leurs commentateurs, vous pouvez rendre l'antenne. Nous, on a des problématiques.
Et on part
en
pub.
On a RMC de problématiques de régie publicitaire. Donc, tu peux aller en pub. Le coup de sifflet a été donné. Les 8 minutes de temps additionnel nous mettent en difficulté. Tu peux rendre l'antenne. On peut y aller. Et donc, ils ont suivi cette décision arbitrale qui était d'arrêter le match.
Les pauvres gars de TF1 sont un peu victimes du truc.
Exactement.
Mais c'est quand même un raté incroyable.
Bah oui, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont vécu dans un monde où la France avait égalisé. C'est vrai.
Demain matin, ils penseront toujours.
Peut-être ils l'ont su, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes après, s'ils ont éteint la télé, ils sont passés à autre chose.
Ouais,
ils sont restés peut-être dans le vague.
Bravo Griezmann.
Certain temps.
Bah, c'est pas passé à autre chose, c'est qu'ils restent sur TF1 et ils sont passés à autre chose.
Non, parce qu'après il y a eu le mag.
Oui, mais donc, d'accord. Mais le mag, il est arrivé 5 minutes après.
Mais tu peux très bien, quand t'es à la pub, zapper ou passer à autre chose, ou descendre ton chien, ou aller te balader, ou faire autre chose, tu vois.
Normalement, tu regardais Evelyne Delia derrière la météo.
Alors, mais ça, c'est marrant parce que ça a l'air de rien. Mais exactement comme on se raconte encore aujourd'hui, comme en 82, le chef du Koweït est venu pour annuler un but.
Hidalgo.
Dans 20 ans ou 30 ans.
Il a réussi à faire d'ailleurs.
Dans les livres et tout, on rappellera ce match, ça sera dans les quiz.
Oui.
Il y aura c'est des trucs pour les amoureux des histoires de Coupe du Monde, ça restera à ce moment-là.
Exactement.
Et alors, il y a maintenant autre chose que j'aimerais vous livrer, c'est la réaction de Didier Deschamps à cette histoire.
Ah.
Qui est quand même assez surréaliste et qui peut-être en dit long sur la façon dont il voyait ce match.
L'état d'esprit.
C'était vraiment amical.
Ils s'en cagaient complet.
Alors, on lui dit, alors c'est but refusé, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Deschamps dit, moi j'ai passé un peu de temps avec ma famille après le match, donc là, je suis en attente d'une réponse. Là, quand il dit ça, on est une bonne demi-heure après la fin du match.
Oui, le problème, c'est que
le gars, t'es sélectionneur, t'es en Coupe du Monde, t'as quand même un truc, c'est dingue.
But égalisateur. C'est un enjeu de la FD, c'est pas un enjeu à lui.
Attendez, je vais aller d'abord voir ma famille, puis on verra plus tard.
Non, mais
c'est incroyable.
Y en a qui font des demandes en mariage.
Toi qui le connais bien.
Comment il l'a dit?
Oui, Lionel a raison, il y en a qui font des demandes en mariage.
Toi qui le connais bien, de A à Z dans ce match, de la compo, du choix, où il a mis les joueurs à la fin et à son comportement avec ce dédain pour cette histoire-là, on est d'accord que ça lui ressemble pas.
Non, pas du tout.
C'est pas un dilettante.
Ce que je te dis.
Deschamps est pas dilettante.
C'est ce que je te dis.
Ni dans la... Même quand il fait jouer le remplaçant, il veut gagner.
Ouais.
Il veut pas rigoler d'une défaite dans un troisième match comme ça.
Mais pour aller
donc, il y a rien qui lui corresponde dans tout
pour,
ça.
Pour aller plus loin, Daniel, où là je te rejoins, c'est que déjà il a fauté sur la préparation de ce match parce que quand je vois que juste d'un point de vue athlétique, mental, psychologique, on s'est fait manger du début jusqu'à la fin. Par les Tunisiens, allez peut-être pas les 20 dernières minutes parce que
oui, dès qu'on a fait rentrer les titulaires,
mais quand tu perds tous les duels comme on a perdu dans toutes les positions du terrain, tous les joueurs, c'est que automatiquement dans la préparation, dans ta causerie, il y a un truc qui a pas été et il a relâché un peu, peut-être qu'il a pas été attentif comme d'habitude, pas concentré comme d'habitude et qu'il a été rattrapé par la patrouille d'un moment et puis après le but tunisien, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a fait les changements en instantané.
Il a dit bon, comme quoi, bon bah allez, vas-y, je vous ai dû donner du
temps.
Maintenant, je vais faire rentrer les stars et c'est elles qui vont égaliser. Mais ça suffit pas, hein, Daniel.
C'était flagrant, je te jure que.
Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir dire de tout ça maintenant si on essaye d'avancer un petit peu? Ça veut dire que
il a 11 joueurs.
Il y a des joueurs. Il faut prier pour qu'ils se blessent pas.
Ah oui, oui.
Bien sûr.
Il y a le constat que tu as. Très peu de remplaçants valables.
Et moi, j'ai même envie de te dire.
L'autre Daniel. Constat qui est évident pour Jérôme, mais pour moi aussi, sauf que moi, j'ai trop souvent l'impression, quand les gens téléphonent, quand on lit les réseaux sociaux, que c'est pas si évident que ça, l'idée que Mbappé est absolument indispensable. Enfin, c'est pas indispensable le mot. Oui, mais
même.
Je trouve qu'il y a parfois des critiques. L'autre fois, je me suis énervé l'autre soir parce qu'il y a un type. Enfin, il y en a plusieurs quand tu lis les réseaux qui téléphonent. Dit ouais, il en fait trop. Ouais, il a raté.
Oui, mais c'est pas grave.
Ouais, il a raté ça.
S'il marque.
Ouais, tout ça, si cela. Non, mais attends, il est critiqué. Il y a des supporters d'autres clubs. Le fait même qu'il soit au PSG, il doute de.
Oui, mais ça, Daniel, ses qualités. C'est pas de l'objectivité.
Donc, c'est bien notre travail d'être objectif et vraiment leur dire. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que le seul dont tu peux vraiment pas te passer, c'est lui.
Bien sûr.
Vraiment. Et ce gars-là change une équipe. C'est comme je disais tout à l'heure dans l'émission de Jérôme, c'est avec lui, tu peux battre n'importe qui. Sans lui, à mon avis, tu peux
mais
perdre.
Mais tu peux demander à Gilbert au stade, c'était encore plus flagrant. Quand
moi,
il est entré sur le terrain,
ce soit si évident pour tous les gens qui nous écoutent.
Les joueurs français se sont transformés quand ils l'ont vu.
Les Tunisiens aussi, d'ailleurs.
Et ouais, ils sont tous allés.
Ils se sont lyophilisés.
Moi, par contre, j'aimerais que, puisque vous êtes objectif et que vous êtes pour l'objectivité, j'aimerais qu'on ouvre un dossier. Et j'espère que vous n'allez pas me parler de fixette. C'est le dossier Aurélien Tchouaméni.
Si, on va ouvrir une fixette et on veut la comprendre. Mais je ne dis pas que je suis en désaccord avec toi. Je veux juste entendre tes arguments, puisque
alors,
tu m'as dit tout à l'heure en rigolant.
Dire.
Dans l'avant-match, toi, tu fais pareil avec Verratti, sauf que moi, je donne des arguments. Donc, toi,
je vais te donner des arguments. Moi, je pense qu'Aurélien Tchouaméni n'est pas le joueur qu'on veut nous vendre. C'est pas celui qui va être le futur de l'équipe de France, ni même le présent. Je sais qu'à un moment donné, on a dit que ce mec-là était meilleur que Paul Pogba. Alors moi, je veux qu'on ait.
Non, on l'a comparé.
Tu le juges sur ce soir, Oussem,
non, sur sa Coupe du Monde.
Non, il le dit depuis un moment. C'est un débat qu'on a souvent.
Tu peux demander Lionel aux autres. Ça fait quelques mois que j'y pense. Et je vais vous dire moi ce que je pense d'Aurélien Tchouaméni. C'est un très bon jeune joueur, mais je pense qu'il n'est pas prêt. Je pense qu'il est encore en post-formation. Il n'est pas prêt à assumer les rênes d'une équipe, encore moins celle de l'équipe de France. Je pense que c'est un joueur qui a toujours su profiter des qualités des joueurs qui étaient autour de lui. Et que quand il n'en a pas autour de lui, ben malheureusement, c'est pas lui qui va tirer l'équipe vers le haut. Aujourd'hui a été un match où on a pu voir ça. C'est lui qui devait prendre le lead sur cette équipe de France. Il n'a pas réussi à le faire.
Mais quand tu as des pipes, Oussem, tu as des pipes autour de toi, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ?
C'est pas des pipes.
Mais
ce
sont des très bons joueurs qui n'ont pas été mis à leur place à côté. Quand tu as Guendouzi qui est à gauche, comment tu veux que je sois. Les mecs, ils n'ont pas les bonnes courses. Il n'y avait aucun bloc défensif. Et tout le monde a pris le bouillon.
J'étais un des premiers à dire que la paire Tchouaméni-Fofana, c'était celle qui présentait le plus de garanties. Ouais, désolé, il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là. Sur cette paire-là.
Mais moi, devant, c'était quoi devant eux? À chaque fois, c'était du n'importe quoi qui arrivait devant eux.
Mais ça veut dire quoi? Coman, c'est pas un joueur qui joue offensivement d'habitude. Colomoyni, c'est pas un attaquant. Non, mais c'est pas une excuse, ça. Quand il perd ses duels contre l'Aïdouni, c'est pas à cause de Coman, hein. C'est pas à cause de Colomoyni.
C'est
qu'il perd ses duels. Quand il vient demander les ballons très bas et qu'il joue de manière latérale, c'est lui qui fait le choix. C'est lui qui se met pas de trois quarts.
c'est pas quelqu'un d'autre. Donc moi je dis pas que c'est un mauvais joueur, je dis juste que
mais tu joues différemment. Moi, moi je suis pas d'accord.
Et même
pas
en
d'accord.
début de compétition,
quand moi, non, là où je suis d'accord, c'est qu'on va très très vite.
Et même et
Lionel, que c'est un joueur qui est pour l'instant un milieu défensif avec peu d'envergure.
Après les autres, c'est le tour de Daniel, s'il vous plaît.
Sur les deux premiers matchs, juste je termine sur ça. Sur les deux premiers matchs, il a des attaquants, il a Mbappé devant lui. Et il propose rien d'autre.
Non, il donne pas de passe vers Daniel. L'avant, de bonnes passes qui tranchent et tout. Là-dessus, t'as raison. Là-dessus, je suis d'accord. C'est pas encore. Alors, il a une marque.
Il est en train de se parfaire.
Attention, comme c'est un garçon qui est, je pense vraiment
très intelligent.
Intelligent,
oui, oui.
C'est vraiment un garçon intelligent qui assurément va vouloir progresser et faire en sorte de progresser. Oui. Parce que souvent, tu veux progresser, mais tu fais pas ce qu'il faut pour. Lui, il va faire pour. Il est dans un club qui va lui permettre de le faire. Il va falloir qu'il profite encore un peu de Modric et Kroos pour progresser. Mais là où tu as raison, c'est qu'on s'est enflammé très très vite. Il y a des choses effectivement qu'il ne fait pas. Des passes vers l'avant. Il joue simple. Pour l'instant, il essaie de jouer confort. Il veut pas faire de conneries. C'est ça surtout. C'est
surtout. Alors, ton avis, Jérôme.
Ben, c'est surtout qu'on a du mal à mettre sur Tchouaméni le style de joueur qu'il est. Parce que dans sa position au milieu de terrain axe, que ça soit
Sentinelle.
Devant la défense ou à deux, il y a des profils différents. Mais Tchouaméni, ce qui ne fait pas assez, je pense, et t'as raison, Oussem, dans le rôle qu'il a aujourd'hui, qui est un rôle de leader d'équipe avec Rabiot au milieu de terrain, parce que c'est la réalité, mais il joue dans l'axe, donc forcément la colonne vertébrale, il en fait partie. Il doit
donner le tempo,
plus de responsabilité, plus de personnalité dans le jeu. Quand ça ronronne un peu trop, bah c'est à lui de s'intercaler, c'est à lui de venir mettre une frappe, c'est à lui de faire une transversale de droite à gauche. Je ne vois pas ça. Il y a beaucoup trop de passes latérales de sa part. Donc oui, moi j'ai le même constat depuis beaucoup de sélections. Le seul souci, Oussem, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vois la construction de ce groupe...
Oui. Bien sûr,
tu te dis, Tchouaméni, il est indispensable parce que de toute façon, il n'y en a pas aucun autre.
Ça, c'est sûr que je ne vois pas de.
Je suis d'accord à ce niveau-là.
Et que
tu me diras quand je pourrai parler.
Si tu dois le mettre en concurrence parce que Rabiot, pour moi, sur le début de la compétition, il n'y a pas de problème, il jouera, c'est Fofana.
Oui.
C'est Fofana à sa place.
Alors,
Lionel, voulais parler de ce sujet.
Tu permets, Lionel, qu'on fasse la pub d'abord et tu pourras donner ta version après, parce que là, on est déjà en retard et puis on a un gros programme ensuite à suivre avec l'Argentine, avec le Mexique. Merci, Jérôme.
Allez, merci à vous. Bonne soirée.
Oussem.
Bonne nuit, Jérôme.
À demain.
Oussem, merci également.
Merci à toi, Gilbert.
On vous libère. Mexique, aussi, Pologne et encore un peu d'équipe de France. À bientôt. Aussem, il y a des grosses journées. Hein.
C'est vrai.
Ouais, mais à 6h du mat, le gars, il est en train de faire des trucs pour TikTok.
6h du mat, non, n'exagérons
pas.
Il commence avec moi le matin avec le café crème.
Le petit déjeuner.
À quelle heure en
fait ? D'ailleurs, je sais pas pourquoi, maintenant que j'y pense, là, puisque je ne vais plus le faire, puisque je m'en vais, pourquoi café crème ? C'est café tout court qu'il fallait faire.
Oui, ouais,
c'est un café que je bois le matin.
C'est très café. Mais parce que moi, comme je bois pas de café, il fallait que je rajoute un peu de crème.
Ah, d'accord.
Allez, à tout de suite dans l'after. On continue le débat sur l'équipe de France. Des conséquences de cette défaite, l'avis de Lionel sur Tchouaméni. Et ensuite l'Argentine et la Pologne, futur adversaire des Bleus en 8e de finale, dimanche à 16h ici au Qatar. A tout de suite sur RMC dans l'After.
Gauche, droite, gauche, gauche.
Tu fais quoi là ?
Écoute, je swipe sur l'appli Betsson. Avec leur combi express, je passe en revue les matchs chauds et je valide mon pari. Et le bonus, si ça gagne pas, je récupère 10% en crédit. C'est simple, c'est juste, c'est Betsson. Télécharge l'appli Betsson et reçois jusqu'à 100€ de bonus de bienvenue.
Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.